Mon message d'espoir d'aujourd'hui, où nous continuons dans le livre de l'Exode, ça s'intitule « Commencement fragile, la naissance de Moïse ». Et en fait, c'est le début du chapitre 2, la première partie du chapitre 2 du livre de l'Exode. Alors, je vais juste monter mon trépied, mon lutrin ici, parce que je suis une personne tellement grande. Et voilà. Mais la semaine dernière, encore, beaucoup de nouvelles dans les journaux et ailleurs, des témoignages de la méchanceté des nations envers les nations, des hommes contre d'autres hommes, des pays en concurrence les uns avec les autres pour les biens terrestres, commettent des atrocités les unes envers les autres. Et on a vu aussi des politiciens en quête de pouvoir inventer des mensonges contre des personnes innocentes. Et ils ont la stratégie qu'en circulant ces fausses choses, ça va m'aider à me faire élire. Alors, aux États-Unis, plusieurs d'entre nous ont entendu, bien sûr, ce candidat à la présidence qui pointe du doigt une communauté immigrante disant qu'ils mangent des animaux de compagnie de leurs voisins et donc qu'il faut voter pour lui, pour que lui protège la population contre ces personnes. Mais cette rumeur est inventée. Même ici au Québec, certains font campagne sur l'idée que les immigrants vont faire écrouler notre système, faire disparaître notre langue. Et ils disent, c'est nos rivaux qui veulent encourager plus d'immigration et ça va détruire notre société. Votez pour nous. Bon, c'est des sujets compliqués, mais tout ça contient des demi-vérités qui jouent sur la peur des gens et ça cause de la haine et de la souffrance dans la vie de gens innocents. La parole de Dieu nous rappelle que dans des situations qui créent de l'anxiété dans nos cœurs, des situations dans le monde, nous pouvons nous tourner vers notre Dieu. Rappelons-nous ce que dit le psaume 33. L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Amen. Alors, tournons-nous vers le Seigneur. Même si nous, on est vulnérables, lui nous voit, son œil est sur nous, si nous sommes son peuple, et c'est ce que nous sommes, et pas juste nous, bien d'autres frères et sœurs dans le monde. Car souvent, les enfants de Dieu sont vulnérables. C'est le cas du peuple de Dieu dans le livre de l'Exode. Au début du livre, on a vu ça la semaine passée. C'est le cas pour les chrétiens aujourd'hui. Dimanche passé, on a vu la situation fragile des Hébreux en Égypte, 400 ans après la fin du livre de la Genèse. Mais Dieu était déterminé à les bénir. On a vu ça avec le message de Mélodie la semaine passée. Dieu était déterminé à les bénir et on a vu le début de cela. Et il a utilisé des personnes persistantes dans leur fidélité pour résister à des chefs politiques cruels et qui inventaient eux aussi des genres de fausses rumeurs. Oh, les Hébreux vont devenir puissants, ils vont prendre le pouvoir dans notre pays. Et des sages-femmes sans force politique ont réussi à leur tenir tête. Et ce matin, nous allons lire la suite de l'histoire. Et cette suite de l'histoire, c'est la naissance de Moïse qui va nous rappeler une grande vérité. Et je vous rappelle cette grande vérité que la Bible nous rappelle et qu'elle nous dit souvent, et qui est ceci, c'est que les initiatives de Dieu, puis c'est ça qui nous intéresse, on veut voir Dieu à l'œuvre dans notre monde et dans nos vies. Les initiatives de Dieu commencent souvent dans la fragilité. Ne méprisons pas les petits commencements. Dieu est à l'œuvre dans l'invisible. Voilà l'essentiel de ce que je veux vous dire ce matin. Mais j'arrête pas maintenant, je vais continuer à parler parce que j'ai beaucoup à dire. L'expression que j'ai mise ici dans la leçon ou dans le résumé, les petits commencements, en fait, elle est dans la Bible. C'est Dieu qui utilise ces mots, les petits commencements. Et c'est à travers le prophète Zacharie, quand Israël, beaucoup plus tard, est en train de reconstruire le temple, qui va devenir un projet réussi. Ce nouveau temple va devenir plus grand, éventuellement, que le premier. Mais c'était difficile au début, ce projet de construction. Et ça a commencé doucement, avec beaucoup de problèmes. Et Dieu a dit à Zacharie de dire au peuple, ne méprisez pas les petits commencements. Ou plutôt, on pourrait dire, ne méprisez pas mes petits commencements. J'aime commencer petit, j'aime commencer fragile, dit le Seigneur. Et il nous communique des choses à travers cela. Les initiatives de Dieu commencent souvent dans la fragilité. Ne méprisons pas les petits commencements. Dieu est à l'œuvre dans l'invisible. Voyons comment cela se manifeste dans l'histoire de la naissance de Moïse qu'on va lire maintenant. Avec un petit clin d'œil au chapitre précédent, on lit le dernier verset, on l'a déjà vu la semaine passée, une note dramatique. Le Pharaon ordonne à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et elle a mis au monde un fils. Et elle a vu qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse, ou peut-être un panier, une caisse de joncs qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. Il s'agit du Nil ici. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille du Pharaon, je trouve être une princesse, la princesse, descendit au fleuve pour se baigner et tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle l'allaite, cet enfant, pour toi? »« Vas-y, » lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car elle dit, « Je l'ai retiré de l'eau. » Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Amen. Alors, il y a deux paradoxes dont je voudrais vous parler dans l'initiative de Dieu dans ce texte. Deux paradoxes. Et qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe? Dans vos études bibliques, peut-être ceux qui sont à l'école secondaire, vous allez le voir dans vos études de littérature à un moment donné. Un paradoxe, c'est quand deux choses... Bien, est-ce que quelqu'un veut répondre? Quelqu'un qui a moins de 25 ans? Un paradoxe. Personne ne lève la main. Bien, en fait, comme le nom de cette église est un paradoxe, l'oasis. L'oasis, c'est qu'il y a deux choses contraires qui devraient agir l'une contre l'autre, mais dans la situation, ça amène quelque chose de positif, de plus grand. Deux choses qui coexistent, qui ne devraient pas coexister. Un oasis, c'est comme un endroit dans le désert où il n'y a pas d'eau, mais dans cet endroit, il y a de l'eau, il y a des plantes, il y a des palmiers, il y a des gens, il y a du rafraîchissement et il y a du repos. Donc, l'oasis, c'est ça le nom de notre église, il y a un paradoxe là. Donc, deux choses contraires, mais qui coexistent ensemble et ça fait réfléchir. Donc, un paradoxe fait réfléchir. Ça nous fait regarder dans l'invisible. C'est quoi qui fait que ces deux choses opposées fonctionnent ensemble dans la situation? Et donc, moi, je voudrais qu'on parle de deux paradoxes dans l'histoire de la naissance de Noé, de Moïse. Premièrement, Dieu permet une persécution mortelle et va s'en servir à l'avantage de son plan. Puis deuxièmement, deuxième paradoxe, Dieu utilise un bébé pour faire quelque chose de puissant. Dieu utilise un bébé dans sa fragilité. Et tout ça, je vous rappelle et je répète, la leçon principale, c'est que les initiatives de Dieu commencent souvent dans la fragilité, puis dans nos vies, dans notre Église aussi. Ne méprisons pas les petits commencements. Alors, parlons du premier paradoxe dans l'histoire qu'on vient de lire. Trop vite. Dieu permet la persécution et s'en sert pour l'avancement de son plan. Donc, on avait vu la semaine passée le pharaon égyptien qui veut faire des choses pour sa gloire à lui et protéger son pouvoir à lui. Et il invente des mensonges, il monte une campagne de peur et de meurtre contre les Hébreux. Donc, il veut exploiter leur travail. En même temps, il veut contrôler la grosseur de leur population par la violence, et il veut les garder dans la misère pour qu'ils ne puissent pas s'unir et s'organiser. Et c'est ce qu'il fait. Dans sa persécution, dans la violence de ce qu'il fait, il vise surtout les mâles. Il se dit, bon, mais les hommes et les garçons qui vont devenir les hommes, c'est ça le danger. Et en les gardant épuisés et en les empêchant de naître, on va avoir le contrôle sur eux. Alors, c'est une chose terrible, et je ne parlerai pas en détail de toute la souffrance que les Hébreux et les mamans hébreux et les papas hébreux ont vécu en voyant leur bébé être pris et tué et noyé, parce que c'est vraiment arrivé. Mais j'amène notre attention que pendant cette terrible chose, Dieu fait quelque chose de brillant pour avancer son plan. Il va contourner la stratégie des Égyptiens en utilisant les femmes, en utilisant les filles. Dans une situation d'esclavage, les femmes sont encore plus faibles, encore plus vulnérables que les hommes. Mais l'avantage d'être une femme, c'est parce qu'on ne les voit pas comme une menace, bien souvent. Donc, le focus est sur les mâles, et là, les femelles passent sous le radar, comme on dit. Sous le radar veut dire, vous connaissez peut-être cette expression, dans l'aviation, les radars peuvent déterminer la position de tous les avions. Mais si un avion passe plus bas, on ne peut pas le détecter. Et donc, dans un temps de guerre, un avion qui vole bas peut rentrer en territoire ennemi sans être détecté parce qu'il est sous le radar. Alors là, on voit plusieurs femmes ici passer sous le radar, des femmes et des filles. Si tu es une femme, si tu es une jeune fille, Dieu veut t'utiliser. Tu te sens peut-être défavorisée comme fille. Mais tu as une situation spéciale de fille et c'est un outil spécial entre les mains de ton Dieu. Alors, à toi de découvrir ta mission secrète dans la mission de ton Seigneur. Je veux t'encourager ce matin. Dieu veut utiliser les hommes aussi. On en parlera. Mais regardons quelques femmes dans l'histoire. Premièrement, on a parlé des sages-femmes la semaine dernière, très rusées, mais surtout courageuses dans leur foi. La mère de Moïse, maintenant, très intelligente avec l'aide de Dieu pour trouver une solution pour sauver son garçon. Dans les films, on imagine qu'elle envoie le panier pour qu'il flotte jusqu'au palais royal. Ce n'est pas nécessairement ça qui est arrivé. Peut-être que la fille de la mère de Moïse, Jochebed, elle s'appelle, a vu, peut-être qu'elle se promenait à la vue, mais maman, il y a un endroit où la princesse vient souvent se promener. Et c'est peut-être ça qui est arrivé, que la maman dit, regarde, prends le panier, puis amène-le, mets-le dans les roseaux, proche de où la princesse aime se promener. Et mets-toi pas loin pour voir si elle remarque le panier. Elle a été intelligente, cette maman. Et elle a suffisamment de foi en Dieu pour essayer quelque chose d'audacieux. Et avec l'aide de Dieu, ça fonctionne. Dieu fait réussir le projet. L'enfant va être sauvé. Dieu va plus loin, il va faire en sorte que la maman devient la nourrice, donc elle retrouve son enfant sur ses genoux et sur son sein pour toute la durée de sa, en tout cas, jusqu'à temps qu'il soit sevré au moins, et peut-être plus encore. Puis je ne sais pas, mais il y a encore une tournure dans cette histoire. Dieu fait en sorte qu'elle va être payée pour être la maman et la nourrice de l'enfant. Puis elle est une esclave d'un fils qui, selon la loi, devrait n'a pas le droit de vivre. Elle va être maintenant payée. Vous voyez comment Dieu a retourné la situation. Et pas au salaire minimum non plus. Il s'agit de la famille royale qui a une intention d'adopter ce garçon comme un prince. Alors, j'imagine que le salaire était intéressant. Wow! Alors, Dieu est capable de transformer des situations désespérées en bénédictions. Si tu es dans une situation désespérée en ce moment, ne crains pas. Continue de prier. Ton Dieu voit. Ton Dieu peut le faire pour toi aussi. Amen? Amen. Il y a une autre manière que Dieu utilise la maman de Moïse. On apprend plus tard dans l'histoire qu'elle s'appelle Jochebed. En tant que nourrice, et peut-être qu'elle a gardé le bébé, elle a joué des rôles plus longtemps après qu'il fût sevré, je ne sais pas. Mais elle va pouvoir enseigner au petit Moïse, à son niveau, quelles sont ses origines. l'exposer aussi au peuple d'où il vient, son appartenance nationale. Va lui communiquer qui est le Dieu de son peuple, surtout. Et peut-être aussi lui enseigner à son niveau d'enfant quelles sont les lois de Dieu qui circulent déjà dans la culture, dans la tradition des Hébreux. La loi dont son ensemble va venir au Sinaï, mais on va voir que Moïse, la semaine prochaine, on va voir quand il va parler à ses frères, on sent qu'il a déjà des notions de la loi de Dieu, notamment « aime ton prochain comme toi-même ». Il semble déjà en place, on verra ça la semaine prochaine. Mais déjà, au verset 11 qu'on a lu cette semaine, on voit que Moïse sort lorsqu'il devient grand. Il sort vers qui? Le texte dit vers ses frères, au verset 11. Et vit leurs pénibles travaux. Moi, je prends ça comme une motivation. Je veux aller voir mes frères. Je veux aller voir mes vrais frères. Moïse a déjà appris quelque part que les esclaves hébreux, c'est sa famille. De qui est-ce qu'il a appris cela? Moi, je pense qu'il a appris ça de sa maman. Donc, mes frères et sœurs, ne sous-estimez jamais que tu sois maman, mais aussi que tu sois papa. Ou peut-être tu es ma tante ou l'amie d'une famille avec des enfants. Si tu vis à l'Oasis, tu es souvent en contact avec des enfants. Ne sous-estimez jamais le rôle que tu peux jouer dans l'éducation de cet enfant, même dans des petites choses. La semaine prochaine, on a une présentation d'enfants et Mitter Venson, Mitter Vensley, vont être présentés au Seigneur et je suis heureux que les parents sont ici ce matin. Maudeline et Mitter, je pense que je les ai vus, oui, salut. Et on va parler de ça, de ce rôle. Et même si ça paraît fragile et insignifiant, tes gestes, tes paroles, tes prières comptent. Regardez à Jochébède, la mère de Moïse. Parlons maintenant de la grande sœur de Moïse. Et c'est peut-être Myriam dans cette histoire, le texte ne le dit pas. Peu importe, c'est peut-être une autre sœur, c'est peut-être Myriam, mais cette fille, cette jeune fille, donc c'est la fille d'une famille d'esclaves, elle ne valait rien dans la société égyptienne. Mais elle savait qu'elle pouvait passer sous le radar. Elle allait se promener là où la princesse pouvait se promener, si mon interprétation est juste. Et elle a réussi à créer un pont entre la famille du pharaon et sa famille d'esclaves. Incroyable! Elle a entamé une conversation avec la princesse au moment clé, au seul moment où c'était possible. Et elle a sauvé la vie de son petit frère. Et lui va sauver le peuple tout entier. Enfin, l'Éternel à travers lui. Amen. Yeah! Je me rappelle, lorsque j'étais un membre dans une autre église en ville ici, un couple qui était impliqué dans l'église et qui avait des enfants, mais à un certain moment, se sont éloignés du Seigneur. Et ils ont décidé d'arrêter de venir à l'église pour pratiquer leur nouveau style de vie, disons, désobéissant envers Dieu. Mais ils avaient une fille adolescente parmi leurs enfants qui, c'était clair, elle n'était pas d'accord avec ses propres parents. Elle trouvait que leur décision n'avait aucun bon sens. Et cette adolescente a décidé que même si ses parents n'allaient plus, et même si la famille habitait loin de l'église, elle allait continuer à venir à l'église les dimanches matins. Et elle venait les dimanches en autobus. Et c'était loin, c'était compliqué. Pour tout vous dire, c'était à Laval. Puis moi, les désaccords entre la société de transport de Laval et celle de Montréal, ça m'a toujours dérangé. Mais il fallait qu'elle négocie ça. Des fois, il faut payer pour deux billets. Et ainsi de suite. Elle venait à tous les dimanches. Et même, elle s'organisait avec des membres de l'église qu'elle passe la chercher. Et même à un moment donné, ses parents l'amenaient à l'église, partaient pour faire d'autres choses, puis revenaient la chercher après le culte. Mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé en fin de compte? Ses parents sont revenus à l'église. Et ils sont revenus au Seigneur et ils ont même fait une parole, un témoignage de repentance devant l'église. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce qu'une jeune personne qui se sent insignifiante peut faire une différence? Oui. Par la fidélité, par la persévérance, par des petites actions qui deviennent grandes avec l'action de Dieu et sa main invisible. Donc, si tu es jeune ce matin, ne sous-estime pas le rôle que tu peux jouer par ta fidélité au Seigneur. Et je dirais, si tu es vieux aussi, on va voir plus tard que Moïse, il va être à son moment le plus pire, comme ça c'est du québécois, le plus pire. Le moment le plus pire. Il est appelé par Dieu pour, on va dire, le début de sa mission en Égypte. Et quand on mentionne son âge, la première fois qu'il va aller parler au Pharaon, vous savez quel âge il a? 80 ans. 80 ans! Donc, je fais un clin d'œil à une sœur, au fond, qui on dirait qu'elle travaille encore plus fort. Je n'ai pas le droit de dire l'âge des gens, excusez-moi. Mais Moïse a commencé à 80 ans. Mais, bon, il était en train d'être préparé depuis qu'il était bébé. Wow! Tout ça pour dire quoi? Les initiatives de Dieu commencent souvent dans la fragilité. Ne méprisons pas les petits commencements. Dieu est à l'œuvre dans l'invisible. J'avais un verset à vous montrer, mais... Ah oui! Oui, c'est ça. Le temps avance, mais je voulais quand même parler des bébés. On a vu cet été, parce que ça, c'est l'autre paradoxe, que la personne clé ici, que Dieu va utiliser, que Dieu appelle comme un genre de sauveur, c'est un bébé fragile et vulnérable. Et on avait vu cet été dans le psaume 8 que Dieu aime utiliser les bébés. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire, dit le psaume. Et c'est le psalmiste, tu confonds tes adversaires. Il utilise les bébés pour fonder sa gloire. Et oui, Seigneur, tu confonds tes adversaires par la bouche des bébés qui pleurent pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. C'est une louange mystérieuse, mais on la voit ici dans cette situation avec la fille du Pharaon. Un bébé sans défense qui pleure va attendrir son cœur, va éveiller son sentiment, son instinct maternel. Et il y a deux semaines, j'ai vécu la puissance du regard d'un petit enfant. J'étais chez Elson et Mirland et j'ai eu la chance de tenir la petite Aisha pendant peut-être 2 minutes dans mes bras. Puis à un moment donné, elle m'a regardé dans les yeux, la petite Aisha. Et puis là, j'ai senti que c'était comme une puissance qui pouvait calmer toutes les tempêtes du monde. En tout cas, moi, toutes les tempêtes dans mon cœur se sont calmées quand elle m'a regardé. C'est cette fragilité, cette innocence, et pas juste Aisha, tous les petits, tous les bébés. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Et fille du Pharaon, en voyant le petit Moïse. Et grâce à ce bébé qui pleurait et qui l'a regardé, elle va sauver le peuple d'Israël. Grâce à ce bébé qui pleurait, elle va devenir même une amie pour la maman et la sœur de Moïse. Cette païenne ennemie va même aller à l'encontre des lois établies par son propre père, le Pharaon, et va devenir une alliée secrète. Une alliée secrète du peuple de Dieu. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Alors, mes frères et sœurs, ne négligeons pas nos relations avec ceux du dehors. Parfois, ce sont nos enfants qui nous rapprochent d'eux. Peut-être vous allez aller à des soirées de parents, professeurs, vous allez rencontrer d'autres parents qui sont des voisins, des enfants qui jouent ensemble. Soyez attentifs à ce que le Seigneur vous dit par rapport à ces relations, ces amitiés potentielles. Ces personnes peuvent devenir des alliés secrets et qui vont peut-être grandement nous aider et peut-être même se joindre à nous. Oui.
Et surtout,
oui, surtout, il faut que tu leur parles de Dieu. Amen. Oui, oui. Avec sagesse, par contre. Avec sagesse. Attendre le bon moment. Mais c'est ça le but. Merci beaucoup. Ah, oh, j'ai d'autres choses à dire. Le temps avance, mais j'ai d'autres choses à dire. Juste un dernier point concernant le bébé Moïse. Quand il va être un petit peu plus grand, c'est quelqu'un qui va être dans le trouble culturel, comme beaucoup d'entre nous à l'Oasis. Est-ce que je veux dire par là? Un enfant déchiré entre plusieurs cultures, plusieurs identités. Vos enfants, si vous venez d'un autre pays, vont être déchirés, tiraillés entre deux cultures au moins. Et Moïse, lui, il a reçu de sa mère une certaine éducation venant d'Israël, mais il va être éduqué aussi comme prince d'Égypte, avec toute cette culture de puissance. Une autre culture. Et plus tard, il va se réfugier. Il va être un réfugié dans un troisième pays, le pays de Madian. Il va se marier avec une Madianite. Et troisième culture. Et Moïse, là-dedans, va être tiraillé. Il va lutter avec ses différentes identités. Mais quand l'Éternel va lui donner le cadeau d'une relation personnelle avec lui, il va trouver sa vraie identité et il va pouvoir utiliser les différentes richesses de ces différentes cultures lorsque c'est utile dans la mission que Dieu va lui donner. Puis ça, c'est la même chose pour toi. Alors, on est tous un peu des amalgames de cultures différentes parce qu'on a une maman puis un papa. Et des fois, ça devient compliqué. Tu as reçu des richesses comme ça, mais il n'y a rien dans ton parcours d'apprentissage que Dieu ne peut pas utiliser. Tous tes acquis, toutes tes expériences et même tous tes échecs peuvent servir pour aider quelqu'un d'autre quand Dieu te demande de le faire. Amen? Yeah! Alors, l'important, c'est que comme Moïse, c'est ce qu'on va voir dans les épisodes à venir, il faut que tu te détaches de ces richesses-là, que tu les remettes à Dieu pour recevoir ta vraie identité de lui, de ta relation avec lui, du fait que tu es un citoyen de son royaume, que tu es un enfant de sa famille. C'est lui ton identité. Puis après, les richesses que tu as reçues de ta culture québécoise, de ta culture congolaise ou haïtienne ou chilienne, et j'en passe. Elles sont là. Elles sont là pour que Dieu les utilise. Amen. Tout ça pour dire que les initiatives de Dieu commencent souvent dans la fragilité, même culturelle. Ne méprisons pas les petits commencements. Dieu est à l'œuvre dans l'invisible. Peut-être que tu trouves que ta vie est fragile, puis ça t'inquiète. Peut-être que tes enfants, tu les vois fragiles dans la société, l'école dans laquelle ils vivent. Comment est-ce que je vais protéger ma fille, mon fils? Comment est-ce que je vais m'en sortir de mes problèmes financiers, mon projet de nouvelle vie au Canada? Peut-être aussi que tu as pris la décision courageuse de communiquer ta foi à tes enfants, à tes voisins, à d'autres. Et puis tu te dis, c'est donc fragile, j'ai donc de la misère. Peut-être que tu es comme moi, puis tu te dis, mais en plus, j'essaie de faire grandir l'Église de Dieu. J'essaie de faire grandir mon groupe maison. Bon, j'utilise le verbe « mon ». C'est déjà là, ça, c'est un problème, parce que tout ça, ça appartient à Dieu. Mais on voit aussi à quel point c'est fragile. Une église, c'est fragile. Un groupe maison, c'est fragile. Mais dans toutes ces situations, Dieu m'invite à retenir cette vérité qui est à l'écran. Ne méprisons pas les petits commencements où Dieu est à l'œuvre. Sa main invisible est là. S'il l'a fait pour Moïse, il peut le faire pour nous. Il peut le faire pour toi et pour moi. Je vous invite à prier avec moi. Alors, encore une fois, merci, Père, pour ta sainte parole qui est tellement remplie de leçons pour nous et d'encouragement. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a pu susciter dans le cœur de ma sœur, de mon frère, peut-être une situation dans leur vie qui les fait souffrir parce qu'elle se sent fragile, il se sent vraiment faible et tout petit. Mais c'est une occasion que tu nous donnes, Seigneur, pour te dire, « Oh, Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham, je te fais confiance. À nouveau, je veux te remettre ma confiance dans mon combat, dans mon projet, dans le projet que j'ai senti que tu m'as donné. Ô Père, donne-nous de nous souvenir que tes initiatives commencent très souvent dans la fragilité. On n'a même pas mentionné Jésus, Dieu le Fils fait homme, né lui-même dans la fragilité et le danger, comme Moïse, lui qui est devenu le grand sauveur éternel. Oui, Père, je veux à nouveau te donner ma confiance. Aide-moi maintenant à célébrer ton nom alors que nous allons ensemble t'adorer dans la musique. Au nom de Christ, amen.